Le Monde de demain, mars-avril 2022. Surmonter la mort d'un proche, écrit par M. Ron McNair et interprété par Jake Boyer. L'article commence. Avez-vous déjà été endeuillé suite à la disparition d'un proche? Si Dieu est juste et tout-puissant, pourquoi permet-il que vous souffriez? La bonne nouvelle est que vous pouvez affronter la mort, y compris la vôtre, avec force, courage et espérance. Récemment, un de mes proches amis et collègues est décédé et la famille m'a demandé de prononcer quelques mots au cours de ses obsèques. La vie est un don précieux et il y a tellement de choses à dire lorsqu'un individu a mené une existence longue et bien remplie. Sa vie est comme les facettes d'un diamant qui brille. Vous y voyez des expériences, des traits de caractère et des qualités, ainsi que des faiblesses. C'est l'histoire d'une vie et comment la résumer en quelques minutes. Lorsqu'un proche décède, nous sommes en deuil. Beaucoup de gens ont du mal à surmonter cette perte. Comment pouvons-nous la gérer, particulièrement avec les maladies actuelles qui menacent de mort les jeunes comme les anciens, ceux en bonne santé comme les malades? Cette question comporte de nombreuses réponses, mais les lecteurs réguliers de cette revue savent que nous considérons la Bible comme étant la vérité, la parole de Dieu. C'est non seulement un livre d'histoire et de prophétie, mais cet ouvrage apporte aussi les réponses aux grandes questions de la vie. Lorsque nous cherchons des conseils concernant la mort et le deuil, nous devrions placer Dieu au centre de notre attention. Voici donc notre première clé pour gérer le décès d'un proche. Numéro 1. Chercher le réconfort, l'espérance et les réponses dans la Bible. Il y a des milliers d'années, vécut un homme prénommé Job. Il fut sévèrement éprouvé par une succession de malheurs. Il perdit de nombreux proches, ses fils et ses filles, en une journée. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait. Mais en fin de compte, il plaça sa confiance en Dieu et il médita sur l'espoir de la résurrection. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appelleras alors et je te répondrai, tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Job 14, versets 14 et 15. Job croyait à ce changement à venir, à la résurrection d'entre les morts. Il croyait que l'époque viendra où les morts ressusciteront à l'appel de Dieu. Si vous lisez la Bible d'un bout à l'autre, vous verrez en effet l'affirmation claire qu'il existe une vie après la mort. La vie actuelle n'est pas la fin. Lorsque Jésus vint sur cette terre, il était Dieu dans la chair. Que déclara-t-il à propos de la vie et de la mort? Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, versets 28 et 29. Dans ce passage, Jésus affirma qu'il existe un avenir au-delà de la mort. Ce sont les paroles du Fils même de Dieu. Lui-même a déjà été ressuscité d'entre les morts. L'apôtre Paul écrivit à propos de la vie du Christ après sa mort. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? 1 Corinthiens 15, verset 12. Malgré la résurrection de Jésus, beaucoup n'y croient pas. De tout temps, il y a eu des sceptiques. Cependant, Paul expliqua que des centaines de gens furent témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre eux étaient toujours en vie lorsque Paul écrivit le passage suivant. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. » 1 Corinthiens 15, versets 3 à 6. Songez à ces paroles. Lorsqu'il écrivit ce passage, des centaines de frères et sœurs qui avaient vu le Christ ressuscité étaient toujours en vie pour en parler. Si vous n'êtes pas certain que vous puissiez croire en la Bible, songez à ce témoignage. Si ce n'était pas vrai, Paul aurait-il pris le risque de faire une telle déclaration? Si Jésus-Christ n'avait pas vraiment été ressuscité, pourquoi Paul aurait-il mis sa réputation en jeu? De plus, pourquoi Paul et les autres apôtres auraient-ils sacrifié leur vie au lieu de prêcher contre cela? Paul fut même en mesure de déclarer avec force, « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Philippiens 1, verset 21. Puisqu'il savait qu'il serait avec le Christ après sa propre mort, il vécut en prêchant le Christ avec confiance. Vous et moi, possédons-nous cette confiance? Nous savons que la Bible nous donne la vérité et l'espérance, mais nous sommes encore des êtres mortels, faits de chair et de sang, qui ressentons profondément la perte de nos proches. Certains sentent qu'ils se trouvent dans une impasse et qu'ils n'arriveront jamais à surmonter cette perte. La Bible est unique car elle donne un aperçu de ce qui arrivera après la mort. Lorsque nous perdons un époux ou une épouse, un enfant ou un ami intime, nous pouvons ouvrir la Bible pour trouver de l'encouragement et du réconfort. Y a-t-il un autre endroit où nous pourrions trouver les véritables réponses? Cela étant, nous sommes tristes et endeuillés, nous avons le cœur brisé et nous ressentons un grand vide. Bien que nous soyons tentés de nous renfermer sur nous-mêmes, la deuxième clé pour gérer la mort d'un proche consiste à faire le contraire. Numéro 2, allez vers ceux qui peuvent vous aider. Partout dans le monde, les gens ont des traditions et des cérémonies pour honorer la mémoire des défunts et réconforter ceux qui leur survivent. La famille et les amis se réunissent souvent pour fournir du soutien et des encouragements. Les éloges funèbres sont souvent prononcés par des proches du disparu. Nous sommes attristés par les circonstances et nous pleurons parfois. Mais dans le même temps, ce souvenir de la vie et des accomplissements du défunt, voire de quelques anecdotes amusantes à son sujet, est apaisant et thérapeutique. Lorsque j'assiste à des obsèques, je suis toujours touché d'en apprendre davantage sur la vie de la personne. Ces souvenirs sont précieux et particulièrement intenses lorsqu'ils sont partagés par une personne qui connaisse bien le défunt. Et c'est une bonne chose de les partager. Bien que ce soit un peu douloureux, il est bénéfique pour chacun d'entre nous d'entendre ces récits au sujet d'un enfant de Dieu qui a achevé sa course. Lorsque les gens sont endeuillés, ils veulent parfois se cacher loin des autres, mais ce faisant, ils s'éloignent souvent des personnes qui pourraient les aider le plus dans leur vie. Être entouré par ceux qui nous aiment est extrêmement utile pour surmonter et traverser la période de deuil. Après un décès, nous devons accepter les efforts des autres pour nous réconforter. Ils ne savent pas toujours quoi dire, et il y a parfois des moments inconfortables, mais ils essaient de nous aider, et nous ne devons pas refuser cette aide. La pandémie de Covid a accentué et aggravé l'isolement. En tant qu'êtres humains, nous avons besoin les uns des autres. C'est particulièrement vrai pendant les périodes de détresse et de deuil. Si vous souhaitez réconforter une personne endeuillée, assurez-vous de lui laisser du temps et de la place pour faire son deuil. Ecclésiaste 3 nous rappelle qu'il y a un temps pour faire le deuil, un temps pour pleurer et un temps pour garder le silence. Il y a même un temps pour mourir, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi un temps pour embrasser, pour aimer et pour guérir. Lorsque vous allez vers ceux qui sont en deuil, assurez-vous que vous le faites pour les aider à surmonter leur peine et non pour vous sentir mieux. Les évangiles rapportent que Jésus pleura lorsqu'un de ses amis mourut. En voyant pleurer Marie et les Juifs qui étaient venus avec elle, Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Jean 11, versets 33 à 35. Il est possible que Jésus fût ému et triste à cause du manque de foi autour de lui, mais puisqu'il était ami avec Lazare, verset 11, et qu'il était proche de sa famille, il est raisonnable de penser qu'il était également ému en partageant leur peine. En tant qu'adultes, nous pouvons oublier que les enfants et les adolescents éprouvent aussi de la souffrance lorsqu'ils voient mourir un grand-parent ou un proche. Ils sont parfois déconcertés par la situation, particulièrement s'ils sont très jeunes. Certains peuvent être confus par leurs propres émotions. D'autres ne montrent peut-être aucune émotion. Ils peuvent aussi exprimer leurs sentiments de façon inappropriée et mal se comporter. De nombreux sites Internet donnent des conseils pour aider les enfants à gérer le deuil. Mais ces conseils s'appliquent aussi aux adultes. Voici ce que propose un de ces sites. Numéro 1. Exprimez vos sentiments et cherchez du soutien. Vous qui lisez cet article, si vous êtes adolescent et que vous avez souffert de la perte d'un proche, n'ayez pas peur d'aller vers ceux qui se soucient de vous. Soyez fort, vous pouvez vous en sortir. Continuez à vous impliquer. Allez vers vos parents, vos professeurs et d'autres adultes à qui vous faites confiance. Numéro 2. Trouvez du sens. Les périodes de deuil et de souffrance peuvent nous conduire à nous poser de grandes questions au sujet de la vie. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de tout cela? Ne fuyez pas ces questions. Le fait de chercher des réponses permet déjà de guérir. Numéro 3. Prenez soin de vous-même. Il est facile de laisser tomber les habitudes qui nous maintiennent en forme et en bonne santé. Nous pourrions manquer de sommeil, nous pourrions cesser de faire de l'exercice, nous pourrions manger n'importe quoi, mais prendre soin de notre santé physique est essentiel pour traverser une période de deuil. Numéro 3. Chercher à comprendre le but de la vie. L'article que je viens de citer nous rappelle de chercher le but de la vie. Pour vraiment comprendre la mort, nous devons d'abord comprendre le sens de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Que représente la vie humaine? Les évolutionnistes ont-ils raison? Sommes-nous le résultat de milliards de protéines qu'un éclair a assemblées par hasard et qui se sont mélangées de façon aléatoire pour produire un corps qui fonctionne en parfaite harmonie? La vérité est que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été faits à son image. Dans le premier chapitre du premier livre de la Bible, nous lisons que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Genèse 1, versets 26 et 27. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Cela signifie que vous ressemblez à Dieu. Certes, dans son état glorifié, il brille plus puissamment que le soleil, et nous ne pourrions pas survivre si nous le voyions ainsi. Mais si nous pouvions le voir dans le monde spirituel, nous verrions un être qui nous ressemble, car nous lui ressemblons. Comment pouvez-vous en être sûr? Lisez ce qui suit. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Genèse 5, verset 3. C'est la même phrase que celle utilisée dans Genèse 1, où Dieu décrivit la création de l'humanité. Il fit l'homme selon son image, à sa ressemblance. Nous n'avons aucun problème à comprendre que Seth ressemblait à Adam, son père, et à Ève, sa mère. Alors pourquoi est-il aussi difficile de croire que nous avons été conçus à l'image de Dieu et que si nous pouvions le voir, nous constaterions que nous lui ressemblons? Cela signifie que nous vivons à un niveau d'existence totalement différent des animaux. Nous avons été créés pour avoir un lien avec Dieu, un lien qui nous accorde une bien plus grande destinée que n'importe quel animal vivant sur la terre. Cette vie a un but, c'est une période pour développer notre caractère à l'image du caractère de Dieu. Nous sommes ici pour comprendre les choses de Dieu et son but. Nous sommes ici pour nous soumettre à lui. Il nous donne l'opportunité de pouvoir vivre éternellement avec lui dans le règne spirituel en tant que membre de sa famille. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, versets 1 et 2. C'est impressionnant. Nous serons semblables à lui, et nous le verrons tel qu'il est. Voici le but de la vie. Ce but n'est pas de disparaître à jamais, d'être sans cesse réincarné à la vie physique, ou de sombrer dans le néant. Le but de la vie physique est de nous préparer à la vie éternelle. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean 3, verset 3. Ainsi, nous ne devons pas vivre sans nous soucier du lendemain. Nous devons vivre pour le Christ et pour nous conformer à son caractère. Si nous faisons ainsi, en acceptant son sacrifice pour nos péchés et en lui demandant de guider notre existence, alors nous vivrons éternellement. Quelle opportunité! Créé pour hériter toute chose. Nous lisons que quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Hébreux 2, verset 6. Effectivement, nous sommes vraiment insignifiants par rapport à la taille de cette planète, sans même parler de l'immensité du système solaire ou de l'univers. Cependant, Dieu nous a créés dans un but précis. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Hébreux 2, versets 7 et 8. Comme Paul l'a expliqué, toutes choses ne sont pas encore soumises, car nous sommes encore des êtres physiques. Mais lorsque nous entrerons dans la vie éternelle, nous recevrons notre héritage. Que cela signifie-t-il? Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez un exemplaire gratuit de notre brochure « Que se passe-t-il après la mort ?» qui a été rédigé par M. Richard Ames, le directeur de la publication de cette revue. Il a écrit « Rien qui ne lui fut soumis. Toutes choses lui sont donc soumises. » Oui, c'est la promesse. L'expression grecque traduite par « toutes » dans Hébreux 2, verset 8 est « ta panta », ce qui signifie littéralement « le tout ». Comme l'expliquent les lexiques grecs, le sens absolu de « ta panta » signifie « l'univers ». Dieu veut donner à l'humanité, à vous et à des milliards d'autres personnes, la domination sur la terre, mais aussi sur l'univers. Lorsque vous souffrez de la perte d'un proche, ne sombrez pas dans le désespoir. Il y a de l'espérance. Il y a un avenir. Notre vie entière gravite autour d'un plan que Dieu met en œuvre. La famille humaine est un miracle. Le fait que nous survivions sur cette planète est phénoménal, lorsque nous réalisons à quel point notre monde est finement ajusté pour permettre la vie. Nous ne sommes pas ici par accident. Nous sommes ici dans un but qui nous apporte de l'espérance. Paul a expliqué, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Affronter la vie et la mort avec confiance. Des millions de gens vivent dans l'angoisse de la mort car ils n'ont pas d'espérance. Ils croient aux philosophies leur enseignant que la mort est la fin définitive de l'existence. D'autres sont terrifiés par la vie après la mort, car ils ont peur que leurs proches souffrent les terribles tourments d'un enfer éternel et ils craignent de subir le même sort. Mais les lecteurs réguliers de cette revue savent que la vaste majorité des êtres humains, ceux que Dieu n'a pas encore appelés, qui n'ont jamais entendu parler du véritable évangile, qui ont entendu parler d'un faux Christ ou qui n'en ont jamais entendu parler, auront finalement leur opportunité pendant le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Oui, notre Dieu est juste et miséricordieux. Nous pouvons vraiment déclarer, comme Paul l'a fait, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. La souffrance liée à la perte d'un proche est bien réelle, mais nous pouvons trouver du réconfort en sachant que la souffrance a un but et que la mort n'est pas la fin de l'histoire. En nous tournant vers Dieu, en marchant avec lui et en lui permettant de guider notre vie, nous comprendrons de plus en plus son but et nous serons en mesure d'aider les autres dans leur cheminement.